dis bonsoir à tout le monde. Je remercie chacune et chacun donc de s'être déplacé, non pas seulement pour le repas, mais aussi pour le sujet que nous allons traiter ce soir. Je remercie également Monsieur De Perrier pour m'avoir donné l'autorisation de traiter ce sujet parmi vous ce soir. Qui est un sujet pointilleux, puisque même la presse nationaliste refuse de l'aborder, ce qui est un fait. Je remercie aussi Monsieur Vermeling. Hein, on se connaît, ça fait plus de 15 ans, je dirais. C'est une personne, je dirais, dont j'admire le combat, puisque pour moi, le combat pour la vie, surtout pour les plus faibles, hein, c'est vraiment un combat de la plus grande charité. Pour moi, c'est véritablement le combat le plus noble, celui de sauver les petits enfants, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion. Un enfant reste un enfant et c'est un innocent. Et ce combat que tu mènes, tu sais, moi, chaque fois quand je vois les photos que tu envoies sur le net, ça me prend aux tripes, quoi. Je te le dis vraiment parce que c'est la vérité, quoi. En tout cas, bravo, bravo, bravo. Donc, quand on parle de cela, moi, j'ai une pensée pour le docteur Dor, bien entendu, un homme remarquable. Comme nous sommes chez la Mère Agitée, j'ai aussi une pensée pour Serge de Bekech, puisque j'ai travaillé au Libre Journal. À l'époque, c'est lui qui m'avait ouvert les pages de son décadaire pour traiter d'un sujet qui a mis en furie les gens du Front National, qui considéraient que les catholiques n'étaient là que pour voter. Et ce sujet, c'était le créationnisme. C'est-à-dire que l'on expliquait clairement que la Bible pouvait avoir une valeur scientifique. Et c'est tout à fait important, puisque ce soir, on va parler du satanisme. Vous voyez où commence déjà le mal. Lorsqu'on refuse les Saintes Écritures, en tant que document précis, j'ai travaillé, enfin je suis, je dirais, un passionné de créationnisme. Le satanisme, effectivement, je le traite parce que j'ai eu entre les mains des documents d'auteurs allemands et néerlandais avec qui je travaille, notamment l'auteur néerlandais Robin de Ruyter. Donc ces documents qui, pour moi, devaient être à tout prix révélé, m'ont fourni effectivement j'ai travaillé sur la traduction de ces documents pour les porter au grand public. Et le dernier livre que l'on a fait avec Robin de Ruyter, un des spécialistes du satanisme dans le monde, c'est sur les témoins de Jéhovah. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Internet où je demande aux témoins de Jéhovah de me mettre au tribunal si ce que je dis est faux quand je dis que ce sont des satanistes qui représentent un message subliminal Satan et que ce sont des pédophiles et des collaborateurs de l'Allemagne nationale socialiste et toutes ces choses-là, bien entendu. Et je dis bien sûr qu'ils ne m'attaqueront pas puisque tout ça, c'est la vérité. Et les témoins de Jéhovah, qui sont des satanistes, sont reconnus comme religion officielle en Italie, qui est chère à notre foi, hein, en Bulgarie, en Norvège. Mais quoi de plus normal, puisque ce sont des satanistes et qu'ils ont le soutien de la franc-maçonnerie et de l'ONU. Donc vous voyez, quand on parle de certaines choses, de créationnisme, on ne va pas parler de créationnisme ce soir, mais en parlant de Bekech, de la possibilité qu'il m'a donnée d'exprimer mon point de vue ou de développer mes arguments sur ce sujet, on voit que à la base, lorsqu'on entretient une foi avec les tares satanique du darwinisme, les choses, je dirais qu'après, malheureusement, lorsque le verre est dans la pomme, on ne sait plus trop quoi, il y a une perte des repères. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que dit d'ailleurs un docteur aux États-Unis qui est en prison pour créationnisme. Quand j'avais écrit mon premier livre sur les géants, je disais, viendra un temps où les créationnistes seront en prison, et c'est le cas avec Kent Ovind, qui est un homme remarquable, qui n'est pas catholique, mais qui a le courage d'un homme du Christ, qui explique très clairement. Donc il a pris 7 ans de prison, il doit sortir en 2015. J'ai des contacts avec ces groupes. Et Kent Ovind, Kent Hovind. Kenthovind. Il explique que lorsqu'on a introduit le darwinisme, il y a eu une explosion des divorces, explosion des suicides, de toutes ces choses, effectivement, de la violence. Et c'est bien normal lorsque vous expliquez aux gens qu'ils descendent du singe et qu'ils ne sont pas des hommes ou des créatures du créateur. Tout ça est bien normal. Donc on voit que le démon fait, depuis qu'il existe, comme on dit chez les Roumains, depuis que le démon existe, il a fait des progrès. Donc le sujet que l'on va traiter ce soir, c'est effectivement le satanisme. Vaste sujet. On va aborder d'une manière assez ample, assez large, le problème des Illuminati. Parce que quand on parle des satanistes ou du satanisme, encore faut-il parler du moteur de ce mal absolu. Donc, le moteur du mal absolu, ce sont les Illuminati, ce sont les Illuminati, c'est la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie, quel que soit l'ordre maçonnique, il n'y a aucune exception, c'est démoniaque, puisque la franc-maçonnerie ensuite est regroupée. Ce travail a été entrepris entre autres par Pike aux États-Unis en 1870. Donc la franc-maçonnerie est démoniaque. D'ailleurs, c'est écrit par Pike ou dans Morals and Dogma en 1870-71. Il écrit très clairement notre but, c'est d'entretenir des fausses idées sur la franc-maçonnerie pour les plus bas grades. Et pour les plus hauts grades, nous admirons, nous adorons Satan, Lucifer. Donc tout ça, c'est clair. Et les francs-maçons qui disent non, non, ce n'est pas démoniaque, c'est un mensonge. D'ailleurs, on ne peut pas être franc-maçon et catholique, on ne peut pas avoir la foi en Christ et être franc-maçon. Il y a aussi, là, je dirais, quelque chose d'inné. Même la manière d'être ordonné en franc-maçonnerie, on voit très bien que c'est démoniaque, hein, le fait de mettre l'épée sur le cœur, de bander les yeux, etc., et de demander aux gens, enfin à celui, au nouvel initié, d'enlever tout ce qui est métal, c'est une ruse du malin pour qu'il enlève en fait tout ce qui pourrait protéger de la nouvelle initiation, c'est-à-dire médaille de la Sainte Vierge, etc., etc. Enfin bon, tout ça, j'improvise aussi en partie, hein, sur mes propos. Donc le but des satanistes, c'est d'arriver à un nouvel ordre mondial. Le meilleur instrument pour arriver à cela, c'est la démocratie. Tout simplement parce que la démocratie, c'est le renversement du trône et de l'autel. Pour arriver à une dictature mondiale. Une dictature mondiale, effectivement, qui exercé par des gens qui sont dans les médias, qui sont les tenanciers de Hollywood, etc., etc. Puisque par certains vecteurs, il s'agit de perdre les gens avec des messages subliminaux. Et c'est pour ça que dans cet exposé, il y a une grande part qui est réservée à Walt Disney. Puisqu'en plus, Walt Disney est un Illuminati qui faisait aussi la promotion du cannibalisme. Puisque le cannibalisme est essentiel pour le satanisme, il y a aussi une part essentielle aussi au rock, puisque le rock est un vecteur de transmission de messages subliminaux. Et on verra très bien que lorsqu'on dit que le rock c'est un phénomène de mode, le fait de parler de Satan, ce n'est absolument pas vrai, puisque on verra le nom du plus grand rappeur américain qui lui a voulu inverser cette mode et qui a dit, bon, ben moi je vais faire l'inverse. Toutes les paroles qui sont blasphématoires sur le Christ, il s'était converti entre-temps, il s'agit de DMX. Il avait dit, bon, ben je vais faire la même chose, mais sur Satan, c'est-à-dire qu'il faisait des grands shows à l'américaine où il disait, je pisse sur Satan, je bénis le Christ, je loue le Seigneur. Et il disait très clairement, voilà, ben, au milieu de tout ça, il parlait des Illuminati, il parlait de Rockefeller, il a tout lâché. Ça a fait ni une ni deux, ils l'ont mis en prison. Et puis, comme ils ne pouvaient pas l'assassiner parce qu'ils en avaient assassiné d'autres auparavant, comme Tupac, ils l'ont mis en hôpital psychiatrique, dans une structure qui dépendait des pénitenciers de l'Arizona. De pénitenciers de l'Arizona, c'est dans les années, début des années 2010, me semble-t-il, 2009-2010. En tout cas, le travail que j'ai pratiqué, c'est un travail donc, je me présente comme un transmetteur, pas comme quelqu'un qui est spécialiste, hein, mais comme personne. Ce que je disais en début, les groupes nationalistes, les groupes catholiques ne font pas le travail. Ils se cantonnent, je dirais, à rabâcher une certaine théorie pour gaver des lecteurs et entretenir le tiroir caisse. Ils ne veulent pas aller sur des flancs qui sont inconnus. Voilà le problème. Le problème de la lâcheté, enfin, entre autres. Et puis, bon, c'est comme ça. Depuis que Serge est décédé, de toute façon, enfin, bon, il n'y a plus grand monde pour être très courageux, quoi. Donc, le travail que j'ai repris, c'est celui du pasteur Fritz Springmeier aux États-Unis, qui est un ancien officier de l'armée américaine, qui a dit, bon, je ne veux plus rien avoir à faire avec l'armée américaine, qui s'est converti en Christ pour devenir pasteur. Il est spécialiste du contrôle mental. Contrôle mental où il explique effectivement, ce sont des méthodes où avec on utilise la torture sur des enfants de 2 ans pour les programmer. Et ensuite, il y a des déclencheurs qui peuvent être une couleur, un mot, un son. Et cette personne devient un terroriste. Il travaille là-dessus avec une femme qui s'appelle Cisco Wheeler, qui est une ancienne programmée. Un programmé ne sait jamais qu'il est programmé, hein. Springmeier, bien entendu, a pris en avertissement 9 ans de prison. Il est sorti en 2011. On l'a accusé, personne n'y croit, d'avoir fomenté un hold-up dans l'Oregon. Le problème, c'est que Springmeier disait moi, je ne dois que des comptes à Dieu. Et il accusait Bush d'être un pédocriminel, puisqu'en fait, la pédophilie n'existe pas. C'est un terme déguisé pour parler d'hommes politiques qui. Enfin bon, qui tue des enfants après les avoir violés, tout simplement parce que l'enfant est pur et on blasphème le Christ à travers ça. Donc Springmeier, lui, a dit tout ça. Il a même dit que la femme de, enfin, madame, non, Hillary Clinton était une prêtresse satanique. Il a tout sorti, lui, hein. Il a pas eu peur, quoi. Hein. Il a pas fait style, ouais, non, non, il a parlé, quoi. Donc c'est pour ça que tout ce travail, je le prends de chez eux, parce qu'en France, personne ne l'a fait, quoi. Beaucoup de gens parlent en France, je suis catholique, je suis nationaliste, en fait, ils sont rien du tout. Parce que c'est tellement grave que maintenant, il faut monter en puissance et parler des vrais problèmes. Donc il y a Springmeier, Robin de Ruyter, qui travaille avec lui, donc le Hollandais, qui est un spécialiste qui a écrit Les 13 lignées sataniques. Si un jour vous êtes intéressé pour le lire, de toute façon j'en ai pris quelques exemplaires. Pour les cauchemars, c'est excellent. Et ensuite, il y a aussi le prêtre, un prêtre excellent que je mentionne, qui est décédé à l'âge de 94 ans en novembre 2012. Il s'agit de Don Luigi Villa, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il était le fils spirituel de Padre Pio. Et Don Luigi Villa avait été placé au renseignement, enfin on va dire, service de renseignement du Vatican auprès du cardinal Ottaviani dans les années 50, puisque Padre Pio lui avait dit il faut que tu mènes le combat contre la franc-maçonnerie, parce que la franc-maçonnerie est aux pantoufles du pape. C'était il y a plus de 50 ans. Aujourd'hui, bon, qui y croit? Qui croit au Vatican, enfin moi du moins j'y crois pas. Donc Don Luigi Villa, pour l'histoire, c'est un homme qui a créé une revue qui s'appelle Chiesa Viva en 71, qui a fait beaucoup d'écrits sur le satanisme, sur la franc-maçonnerie, sur la juiverie, tous ces problèmes-là. Il a fait l'objet de six tentatives d'attentat quand Montini, enfin le futur Paul VI, a été nommé pape. Enfin, c'est lui qui l'accuse d'avoir introduit la pédophilie au Vatican. Enfin, bon, voilà, c'est un homme sur mesure qui, dans ses revues, qui les a vivas, qui même sont traduites sur Internet, raconte les problèmes du satanisme. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui, parce que ça, c'est vraiment essentiel, c'est qu'on ne peut pas être catholique ou homme de, pour être large, homme de foi, sans mener le combat contre Satan. C'est impossible et on le voit d'ailleurs. Vous sortez dans la rue, vous avez des histoires en permanence de gamins qui se font enlever. Il y a quand même quelque chose derrière. On parle d'homme politique. À l'heure actuelle, pour aller plus vite, il faudrait dire quel est l'homme politique qui n'est pas pédo-sataniste. Non, mais il faut parler clair. Voilà ce que devraient mener comme combat les nationalistes et les catholiques. Mais comme ils sont là pour seulement avoir une petite place confortable au paradis, le reste, ça ne les intéresse pas. Ils prient un peu, et puis voilà, quoi, ça, on s'arrange avec ça. Donc voilà les trois personnes qui sont des personnes costauds, des personnes de Christ, des personnes qui mènent le combat pour la vie, comme Dore, ou, voilà, à leur niveau, comme Winfried. Alors, je vais commencer mon exposé sur le satanisme et sur l'ordre satanique par deux citations. La première citation est de David Rockefeller dans Mémoire. C'est pour vous montrer l'impunité de ces gens-là, où ils écrivent qui ils sont. Mais comme personne ne leur reproche, c'est comme Jacques Attali quand il parle de mener l'euthanasie, il n'y a pas une journaliste pour lui mettre le poing sur la gueule, quoi. Ou lui crever les deux yeux à la rigueur. Non, on l'écoute, c'est normal. Mais bien sûr. Rockefeller, dans Mémoire, David Rockefeller écrit, c'est sa biographie. Quelques-uns croient même que nous faisions partie d'une cabale secrète travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi en tant qu'internationaliste et conspirant avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale plus intégrée ainsi qu'une structure économique. Un seul monde, si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Il avoue qu'il est le complotiste, en fait, le complotiste. Vous avez aussi Honoré de Balzac dans Les Illusions perdues qui écrit: il y a deux histoires, l'histoire officielle mensongère qui nous est enseignée, l'histoire ad usum Delphini et l'histoire secrète où se trouvent les causes véritables des événements, une histoire honteuse. Celui qui croit que les hommes politiques font l'histoire, font la politique, c'est un peu dommage, quoi, ils ont rien compris. C'est tout à fait l'inverse. Ce sont des satanistes qui mènent le bal. Et c'est comme ça depuis la Révolution française. Puisque les ordres sataniques des Illuminati ont voulu mener la Révolution en France pour, à partir de la France, mener la Révolution en Europe et dans le monde. Tout simplement parce que les satanistes savent très bien que le combat est surnaturel. Et ils savent très bien que la France est la fille aînée de l'Église. Donc, quand on abat la fille aînée de l'Église, le reste se déplie, je dirais, c'est tout à fait offert. Il y a 13 familles sataniques essentielles. Les Rockefeller, ça c'est Springmeier qui travaille sur ça. Les Rothschild, bien entendu. Les Dupont, qui fournissent l'armée américaine depuis la guerre de sécession jusqu'à aujourd'hui. Et on y retrouve aussi Russell. Alors Russell, il est peu connu, mais il est quand même efficace. C'est le créateur des Témoins de Jéhovah, cette secte satanique, qui utilise des dessins subliminaux, qu'ils mettent par exemple sur le front du Christ, où vous avez effectivement le visage de Satan sur le front du Christ. Tout ça, c'est expliqué dans mon dernier ouvrage. Et les Témoins de Jéhovah ont été reconnus comme organisation non gouvernementale de 1992 à 2001 par les Nations Unies. Mais c'est tout à fait normal, puisque les Nations Unies ont même reconnu jusqu'à aujourd'hui hein, une des branches de la Lucifer Trust, qui a 1922 ont changé leur nom en Lucy Trust parce que c'est un peu trop voyant. Et ce mouvement s'appelle, qui a été fondé en 1935, le mouvement de la volonté mondiale. Et bon, bien entendu, ils prônent la paix dans le monde, l'humanisme, et ils font partie de l'ONU à l'heure actuelle. Donc voilà, sommairement, quelques noms chez les Illuminati, c'est surtout Rockefeller, Rothschild, Dupont, Russell, oui, les Kennedy aussi qu'on y retrouve. La famille d'Angleterre aussi appartiendrait aux familles Illuminati. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant d'apprendre que depuis la reine Victoria, tous les enfants de la couronne anglaise sont circoncis dans les hôpitaux. Pour vous dire, même l'histoire avait été lâchée par Stéphane Bern. Et c'est tout à fait intéressant de regarder d'où vient la reine Victoria, qui avait circoncis le futur Édouard, enfin le futur roi Édouard VII. Édouard VII est décédé en 1910, donc pour donner un repère temporel. Elle est issue du comté de Saxe-Cobourg, qui, dont on connaît tous la ville, c'est Francfort. Et en Saxe-Cobourg, se sont retrouvés à l'époque, avant de créer les Illuminati, les Illuminati, c'est le nom latin des Illuminés de Bavière, l'ordre satanique par excellence, fondé le 1er mai 1776. Avant cette date-là, se sont rencontrés donc en Saxe-Cobourg, Jacob Frank, qui prône le retour, enfin la venue de l'Antéchrist par la perversion. Donc tout est permis. On comprend maintenant pourquoi vous avez la perversion dans les appareils politiques, entre autres. Enfin, tout ça, on va y revenir de manière un peu plus précise quand même. Donc il avait rencontré, il avait initié Rothschild dans le comté de Saxe-Cobourg. Ce qui est intéressant, c'est que cette reine Victoria est originaire de Saxe-Cobourg. D'ailleurs, la famille d'Angleterre changera son nom en Windsor, je crois que c'était à partir de 1917. Et il y a Weishaupt aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on a créé les Illuminés de Bavière, donc le 1er mai 1776, les Illuminés de Bavière, leur plan de révolution pour asseoir Satan sur le monde, puisque ça c'est écrit par le chef des Illuminés de Bavière, qui s'appelle Weishaupt, qui est un juif converti, certainement pas bien converti, mais enfin bon, écrit dans son livre en 1770, il écrit, alors autant que c'est le testament de Satan. Dans le testament de Satan, bon, il écrit que Satan, c'est le chef de la franc-maçonnerie, on y revient, et il dévoile ses plans. Ses plans luciférien de révolution, etc., etc. Et il parle déjà d'une gouvernance mondiale. C'est quand même fantastique. Et les plans donc de ces furieux satanistes sont découverts. Alors, Weishaupt est financé par Rothschild, inspiré par l'idée de Jacob Frank de la perversion, etc., pour amener l'Antéchrist sur la Terre. Ils sont découverts parce qu'en 1785, il y a un prêtre qui s'appelle Lance. Il n'a pas eu de chance. Enfin, il a été foudroyé. Donc il est tombé. Et la police bavaroise a retrouvé donc les plans des Illuminati dans sa sacoche. Donc tout de suite, ils ont averti le roi de France. Il n'a pas spécialement pris ça au sérieux. On a vu le résultat. Ça n'a pas traîné, hein. 4 ans après, boum, c'était des plans de révolution. Et ces gens partent ensuite donc de Bavière et se sont réfugiés en Saxe-Cobourg. Et ce sont ces gens-là que vous retrouvez chez la reine d'Angleterre. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant de remarquer que l'ordre de la Jarretière, qui est l'ordre le plus éminent, on va dire, de chevalerie en Angleterre, créé au XIVe siècle, en 1348, est une principale organisation à l'heure actuelle des Illuminati, à qui a été confiée donc la mise en œuvre du nouvel ordre mondial. Alors tout le monde y adhère, hein, c'est-à-dire le prince William, le prince Charles qui est un fou de comment on appelle ça, de syncrétisme. Et le prince Charles qui est marié à une juive d'ailleurs, puisque sa femme n'est absolument pas chrétienne, la Katie Middleton. Toute l'histoire a été montée par le MI6. Non, c'est William, le prince William, voilà. Donc on vous retrouve comme ça certaines formes très très intéressantes. Ça a été lâché entre autres par la presse anglaise, par le Sun. Alors on dit que c'est un tabloïd, vous savez, c'est pas très sérieux, mais c'est quand même le journal qui tire le plus. Voilà. Donc pour les Illuminati, dans Chiesa Viva, donc le père Don Luigi Villa dit que le groupe des sages de Sion, qui a été créé au XVIIe siècle, et Mayer Amschel Rothschild, donc celui qui a créé la dynastie bancaire des Rothschild, porte à la discussion les prémices d'un manifeste, les protocoles des sages de Sion. Et il y a effectivement sept points qui sont tout à fait intéressants. Donc ces gens sont des satanistes. Hein. Et pour arriver à leur fin, ils mentionnent sept points. Alors c'est tout à fait intéressant parce que les gens de mauvaise foi, les mêmes qui disent que la franc-maçonnerie n'est pas démoniaque, disent « Ah oh, mais les Illuminés de Bavière, ça a été dissous, donc ça n'existe plus. » Ils sont quand même pas gênés sur le fait que Rothschild, bon je veux dire, il n'est pas balayeur quoi dans l'histoire. Hein. Il est celui qui mène la danse, il est même au-dessus de Rockefeller. Donc on retrouve les mêmes qui mènent la politique. Les idées effectivement qu'ils développaient à l'époque, comme par hasard, on les retrouve dans l'accomplissement politique à l'heure actuelle. Alors les sept points, vous allez voir, hein, c'est clair. Diviser les peuples en fomentant des révolutions et des oppositions partisanes articulées autour de pseudo-enjeux politiques, économiques, sociaux, religieux, ethniques, etc. Si nécessaire, les groupes antagonistes seront armés afin qu'ils s'affaiblissent dans de vains combats. Pour aller au plus simple, celui qui n'a jamais compris que les deux guerres mondiales, ça a été fomenté, ça a été créé, c'est dommage, quoi. Ensuite, et pareil pour la révolution russe, hein. Là-dessus, il faut reprendre par exemple les écrits de l'ambassadeur américain en 1917. C'était Russia from Embassy, America from Russia Embassy. J'ai oublié le nom où il écrit très clairement que les Rockefeller, via la Fabian Society, financent les bolcheviks qui sont complètement acculés à la défaite et remontent effectivement par la finance des grands capitalistes. Alors en tout cas, le second point, corrompre les mœurs des politiciens et choisir des chefs d'État serviles et soumis. Regardez les chefs que nous avons en France. Si c'est pas ça, corrompre les mœurs, on est en plein dedans. Posséder le contrôle de l'enseignement pour que les futurs dirigeants soient baignés, ça c'est le troisième point, dans une culture internationale et deviennent malgré eux des agents du complot. On est en plein dedans. Je veux dire, en Grèce, ils s'en rendent compte aujourd'hui, mais avec Chrissie Havgi, bon, notamment, qui sonne le glas, qui mène la résistance, même si. C'est ce qui nous gâte aussi en France. C'est-à-dire des hommes politiques qui vont nous étrangler. D'ailleurs, je pense que Strauss-Kahn récemment a dit, je crois que ça date d'un ou deux jours, que la zone euro allait complètement s'effondrer. On nous promet des lendemains réjouissants. Ensuite, quatrième point, s'assurer que les décisions les plus importantes concernant les affaires d'un État soient à long terme cohérentes avec les objectifs du nouvel ordre mondial. C'est exactement le système bolchevique de l'Union européenne. On est en plein dedans avec, effectivement, c'est une dictature, ni plus ni moins. Puis celui qui l'ouvre, s'il écoute, enfin, si c'est une personne écoutée ou autre, on le voit encore avec la Grèce, on lui trouve des faits accablants qu'on invente, bien sûr, pour le mettre en prison. Contrôler les médias, cinquième point, dans le but de manipuler les masses, son commentaire. Sixième point, susciter le vice et satisfaire le plaisir des masses. Dans une société dépravée, les hommes perdent toute valeur religieuse. Solzhenitsyn disait que les miradors, que la pornographie était plus dangereuse que les miradors. D'ailleurs, je fais une parenthèse. En Palestine, les Israéliens font passer des films pornographiques pour. Ça, je le sors d'un écrivain catholique allemand qui s'appelle Frank Hills. Et ensuite, déclencher trois guerres mondiales. Voilà ce qu'on écrivait déjà il y a plus de il y a 200 ans. Alors, sur les 200, sur le déclencher les trois guerres mondiales, c'est un point qui a été développé par Pike, justement, en 1800, dans une lettre qui date du 14 juillet 1871, qu'il envoie au chef des Carbonari, Mazzini, où il lui dit: pour parvenir à nos fins, il faudra trois guerres mondiales. Alors les francs-maçons, ils disent: ah ben non, c'est pas vrai, non, elles n'ont jamais existé. Cette lettre n'a jamais existé, manque de peau. Elle a été exposée pendant très longtemps avant d'être retirée au British Museum. Le British Museum, enfin, petite parenthèse, qui était le même musée qui devait expertiser le linceul de Turin. On a vu le résultat. Et qui, d'ailleurs, je fais une parenthèse aussi, avait pendant 40 ans dans ses vitrines le crâne de l'homme de Nebraska. Ils ont toujours refusé de le sortir. Et quand ils l'ont sorti, ils se sont rendus compte que ce chaînon manquant entre l'homme et le singe, c'était ni plus ni moins que des dents de singe avec une mâchoire d'homme. Et c'était tellement faux qu'il y avait même une trace digitale des faussaires à l'intérieur du crâne. Voilà qui sont ces gens-là. Mais tout se tient en fait. C'est une grande famille de pervers, de satanistes. Voilà. Le Bilderberg, c'est la pierre, je dirais, émergente des Illuminati. Alors, le Bilderberg a été. C'est une organisation qui a été créée de manière informelle en 1952 et qui prendra ce nom de Bilderberg le 29 mai 1954 à l'hôtel Bilderberg d'Oosterbeek aux Pays-Bas. Alors, les fondateurs, le prince Bernard de Lippe. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la famille Saxe-Cobourg avait mis Guillaume d'Orange sur le trône pour avoir comme ça une monarchie protestante. Et on voit aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Et David Rockefeller est aussi un des fondateurs, quoi, ils sont deux. Alors, c'est tout à fait intéressant parce que le Bilderberg, ce sont des démocrates qui se réunissent, mais pas n'importe lesquels. Ce sont des Strauss-Kahn, ce sont des. J'oublie chaque fois son nom, là, celui qui était impliqué dans les trafics d'organes au Kosovo, là. Kouchner, voilà, tous ces gens y vont. Et il y a 3 ans, par exemple, à Saint-Moritz en Suisse, ils avaient érigé un mur pour pas qu'on les voie. Pour pas qu'on les voie. Alors il y avait des gens qui avaient senti le vent, enfin, qui pas très naïfs. Ils s'étaient cachés dans la montagne avant que ça arrive, tout ça. Et puis ils prenaient des photos. Et ils disaient: il y a le ministre de l'économie japonaise, là, il discute avec son homologue australien, que sais-je. C'est secret. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions en secret. Et quand vous interrogez les députés, ou les, pas les députés, les ministres, notamment il y a un travailliste anglais, dont je n'ai pas le nom en mémoire, on lui a posé la question, ils en ont attrapé un, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah non, je ne suis pas autorisé de vous le dire, c'est secret, patati patata. Et il y en a un italien de la Lega Nord, qui s'appelle Borghezio, Il a pris un coup de sang, il n'a pas fait le voyage pour rien, bon, il s'est dit c'était pas trop loin quand même, de l'Italie à la Suisse, et il s'est dit je vais aller voir quand même qui sont ces gens. Il a dit voilà, je suis député européen, laissez-moi entrer, j'ai le droit de savoir. Les autres, ils n'ont rien voulu savoir, hein. Enfin, du moins les gens, la protection. Ils lui ont cassé le nez, ils l'ont foutu dehors, et l'autre, il avait le nez en sang, et il a porté plainte, quoi. Enfin, je pense pas qu'il y ait eu grand-chose. Hein. Enfin voilà quoi. C'est tellement secret que quand le Bilderberg se réunit plusieurs semaines avant, il change même le personnel de l'hôtel. La femme qui repasse le linge, qui passe l'aspirateur, tout ça, il le change. Vous voyez, c'est un ordre secret. Et, enfin, un ordre, c'est pas, c'est une partie émergente, mais on ne sait trop rien. Alors, d'après ce qui peut filtrer, à Saint-Moritz, justement, ils avaient parlé de la hausse des taxes. Et à l'époque, il y avait le ministre de l'économie argentin, il était passé sur Soir 3. Il disait, mais c'est quand même. Nous, en Argentine, on a fait quand même l'inverse pour relancer l'économie. Il faut faire tout à fait l'inverse, quoi. Il faut pas justement augmenter les taxes. Mais en fait, la réalité, c'est que justement, ils veulent plomber le. Ils veulent une crise. Pourquoi? Parce qu'on en retourne encore à Rockefeller, ce qu'il disait déjà dans les années 60. Il y aura une gouvernance mondiale, de gré ou de force. Et il parlait effectivement d'une crise économique pour arriver à une gouvernance mondiale. D'ailleurs, c'est ce que, quand on lit les prophéties sur l'Antéchrist, sur l'apparition de l'Antéchrist, on parle de la destruction des nations. Ça, c'est clair. Vous avez encore d'autres groupes comme la Trilatérale. Vous avez aussi le CFR, le Conseil des Relations étrangères, où 5 000 personnes adhèrent à ce groupe dans le monde. Le CFR, qui a été fondé par David Rockefeller. Donc le même qui a fondé le Bilderberg a fondé aussi le CFR, Rockefeller, qui est le président de la Chase Manhattan Bank. Les adhérents, effectivement, on y retrouve au CFR George Bush et Bill Clinton. Et certainement ce fameux Kerry qui appartient aux affaires étrangères, maintenant aux États-Unis, qui appartenait. C'est un étudiant aux États-Unis qui a dit ça. Il a apostrophé Kerry devant tout le monde. Et il a dit, vous appartenez à une secte satanique qui s'appelle les Skull and Bones, qui est rattachée à Yale. Le gars, ils l'ont dégagé tout de suite. L'autre, il rigolait vert. Voilà quoi. Et Kerry appartiendrait, bien entendu, aux familles Illuminati également. Donc, en début d'exposé, on a dit une chose importante. On a parlé du contrôle mental avec Springmeier, puisque pour arriver à une dictature, ils veulent arriver à un esclavage mental des hommes. Et cet instrument, c'est ce qu'on appelle le mind control en anglais, ou le contrôle mental, contrôle de l'esprit. Alors, je vais ouvrir ce chapitre par une citation qui est celle du neveu de Sigmund Freud, qui dans Propaganda en 1928 écrivait. Donc, ce neveu s'appelle Edward Bernays. Il écrit: La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Quand même clair. Et il continue. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige visiblement le pays. C'est clair et c'est net. Si avec ça on n'a rien compris, on peut aller jouer au cube. Ben oui, mais c'est le problème. Puisque personne n'en parle aujourd'hui. Ça, ce que je vous dis là ce soir, vous pouvez en faire un article, le passer à n'importe quelle presse, n'importe quelle, ils vous le refuseront, hein. N'importe quelle, quand je dis n'importe quelle, c'est n'importe quelle presse. Donc le contrôle mental, il y a trois personnes qui, d'après Springmeier, sont Les pionniers de cette technique, c'est le docteur Joseph Mengele, donc qui travaillait sur des jumeaux qui traumatisaient donc à Auschwitz, tout simplement parce que le traumatisme entraînait la perte de mémoire et donc la réinitialisation du cerveau, ce qu'ils appellent cloisonner le cerveau, créer de cloisons. C'est tout à fait intéressant de voir que Mengele, par exemple, est mort tout à fait tranquillement en 1979 au Brésil. Ensuite, il y a le docteur Ewin Cameron, qui est une recrue de la CIA. Donc lui aussi, d'origine écossaise, il pensait guérir la folie en effaçant la mémoire existante, en créant des traumatismes toujours, pour reconstruire complètement la psyché. Il travaille à l'Institut de santé mentale de Mont-Royal, près de Montréal. Ses cobayes sont réveillés par des injections intraveineuses de thorazine, de phénergan, de séconal et autres barbituriques hypnotiques surpuissants. 3 fois par jour, ils subissent des séances d'électrochocs de plus de 150 volts. Ce traitement, appelé cure de sommeil, dure 15 à 65 jours. Vous comprenez quand Springmeier écrit des choses comme ça, qui prennent 7 ans de prison. Surtout qu'il met des noms là-dessus. Hein. Enfin, c'est pas le seul, mais lui est un initiateur de ce travail-là qui est repris après. Il y a aussi le docteur Léo Wheeler, dont on ne sait pas grand-chose. Quand vous allez sur Internet, on trouve quasiment rien sur lui. Et vous avez plein de choses comme ça. Vous ne trouvez rien. Léo Wheeler. Le commandant en chef de l'état-major américain pendant la guerre du Vietnam. Tous ces gens font partie de l'armée, enfin beaucoup. Donc, ils travaillent ce qu'ils appellent un des premiers plans. En fait, il y a eu le MK Ultra. Le MK Ultra, c'était après la guerre de Corée. Washington disait, voilà, nos soldats ont été traumatisés par ce qu'ils ont vu en Corée, il faut les rééduquer. En fait, c'est un peu l'inverse qu'ils ont fait. Ils ont fait des expériences où ils ont voulu les reconditionner. Il y a notamment un programme aussi qui s'appelle le Monarch Mind Control Programme, donc ce programme Monarch, ce qu'on appelle le programme Monarch, qui divise la psyché d'une personne en plusieurs personnalités appelées alternate personalities, variations de personnalité, ou alters, voilà, sont les termes employés. Chaque alter est perçu par le cerveau comme une personne séparée pouvant prendre le contrôle entier de l'individu. C'est-à-dire, ça revient à ce que je disais au début, la personne ne sait pas qu'elle est contrôlée mentalement. C'est-à-dire qu'elle est programmée, par exemple, pour faire un attentat. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que on va le voir après avec le témoignage de Vicky Pauline qui a fait grand bruit aux États-Unis, où elle raconte la torture des enfants pour les programmer. Oui, la programmation, voilà, on se sert de la torture. Alors je me souviens d'un bouquin comme ça qui s'appelait L'Holocauste des âmes, qui s'était passé en Roumanie à la prison de Pitești, qui était où c'était tenu entre autres par une juive, Anna Pocker, fille de rabbin. Nommée comme femme du Parti communiste ou du communisme, je sais pas, par Staline, qui lui avait offert un manteau en bison, elle avait entrepris quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire le but c'était de ne pas tuer les prisonniers, mais donc c'était après la Seconde Guerre mondiale, juste après, mais c'était de les rééduquer. Alors on les poussait à manger leurs excréments, à faire tout un tas de choses pour les rééduquer. Bien entendu que l'affaire s'est su, je crois que c'est une prison qui a fermé au début des années 50, mais on n'a jamais dit, voilà, c'est pour du contrôle mental, bien entendu. Mais ce qui est intéressant, c'est que, regardez par exemple les histoires avec les prisons de Guantanamo. Les prisonniers racontent qu'ils ont été torturés avec des électrochocs et sur les parties génitales. Et quand on voit, parce que c'est pas une seule, c'est pas 10, ce sont des centaines de ces personnes torturées, on les retrouve maintenant au Kenya, dans, comme responsable enfin, d'un groupuscule terroriste qui n'appartient à aucune oumma, c'est-à-dire aucune société musulmane, comme par hasard. C'est quand même curieux. Surtout que on retrouve plusieurs prisons américaines, ou du moins qui appartiennent à la CIA, notamment en Pologne. J'avais sorti cette information du Spiegel du 24, du 27 avril 2009, qui avait révélé que la CIA possédait la prison de Star Kęskuty, dans le nord-est de la Pologne. Et là, les prisonniers, c'est pareil, c'est tous des Arabes, et ils subissent des trucs bizarres, quoi. Pareil, traumatisme sexuel, électrochoc, tout. C'est quand même curieux pour la sécurité de voir torturer comme ça les gens. Il faut réfléchir un peu, quoi, pour voir un peu au-dessus. Et il y a des choses qui sont quand même pas trop claires quand on est dans la dimension de la programmation mentale. Alors, tout ça, ça s'est su aux États-Unis après la guerre de Corée, et même sous les deux mandatures de Clinton, qui ont duré donc de 93 à 2001, où la population américaine a dit voilà, nous savons que la CIA, que l'armée américaine mène des programmes donc de programmation mentale, et nous demandons la formation d'une commission pour enquêter. Clinton a dit, il a reconnu effectivement, la CIA a mené des expérimentations de cet ordre. Et nous allons enquêter, mais entre-temps, la CIA a eu le temps de détruire les documents compromettants. C'est un médecin, officier médical en chef en Finlande, le docteur Ronny Kild, qui rapporte que les technologies de contrôle mental sont utilisées par l'armée norvégienne. États-Unis, Norvège, enfin bon, on a l'impression que c'est un peu partout. Une des techniques qui est évoquée par Springmeier, ce sont les techniques de miroir pour reprogrammer le cerveau. C'est-à-dire qu'on met la personne dans une pièce remplie de miroirs où il n'y a que des miroirs. Et c'est tout à fait intéressant de constater, par exemple, l'écrivain Lena Pepitone, qui a écrit une biographie qui s'appelait Marilyn Monroe Confidentielle, où elle dit qu'il y avait une pièce où Marilyn Monroe était, c'est une coïncidence, hein, certainement, remplie de miroirs. On retrouve ça aussi dans Walt Disney, où j'avais pris le cas aussi du roman publié en 1907 avec Ozma, la princesse d'Oz, où on retrouve la princesse Langwidere dans une pièce toute lambrissée, etc., etc. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est, en lisant Springmeier ou d'autres sur ces techniques de contrôle mental, où je me répète, la population américaine est montée au créneau, a demandé la formation d'une commission, on retrouve dans les dessins animés ou dans le fi dans la dans Hollywood des films qui semblent montrer, comme ça, tout à fait par hasard, décrire des techniques qui étaient utilisées. On parlait de Walt Disney, donc. Walt Disney, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que il appartient à la franc-maçonnerie, et il appartient donc, il est au 32e grade de la franc-maçonnerie. Alors Walt Disney, c'est très clair. Ce qu'on lui doit, c'est d'avoir introduit le satanisme dans les populations, effectivement, enfin, les populations, chez les enfants du plus bas âge. C'est très clair. On le voit, moi quand j'avais travaillé sur ces sujets, j'ai répertorié les noms des dessins animés. C'est du satanisme. On le voit avec, par exemple, Gorgoïls, les anges de la nuit, qui est diffusé en 94, où Disney présente une race de démons protégeant une ville. Un des gargoyles s'appelle même Démona. Il y a aussi un dessin animé qui s'appelle, enfin en français, c'est Retour des sorcières de montagne, où on parle comme ça de posséder les lois de la nature, enfin bon, il y a tout plein de choses. Et en même temps, il y a la pornographie. On en revient toujours au même, au même travers, la pornographie avec Walt Disney, notamment avec la petite sirène. Ce que j'écris dans mon livre, et je note là aussi les sociétés qui appartiennent à Walt Disney, Touchstone, Miramax, qui sont des sociétés de pornographie qui appartiennent à Walt Disney. C'est-à-dire que ce que personne ne sait, c'est que Walt Disney est le plus grand producteur de pornographie. D'ailleurs, les couleurs qu'il utilise dans ses dessins animés sont des couleurs aussi pour je dirais, marquer l'esprit des enfants. Ou, bon, ce n'est pas Walt Disney qui l'a produit, mais c'est par exemple les Teletubbies, où ça avait été écrit par Don Luigi Villa. Il avait mené une étude là-dessus, où les Teletubbies avec leurs couleurs rose, violet, etc., et le fait que ce soit des personnages asexués, influencer l'identification sexuelle des jeunes enfants. C'est-à-dire que ces gens tapent là où ça fait, je dirais, ils veulent pervertir la société entière. Récemment, dans la presse française, personne ne l'a passé. Enfin, c'est un fait, sur Internet, il n'y avait rien. Je l'ai sorti d'un blog catholique italien pour montrer l'étendue, hein, de cette volonté maléfique. C'est Soros qui, au début 2013, a financé des pédophiles pour faire le programme d'éducation sexuelle des enfants croates dès l'âge de 10 ans. C'est sur Internet, je l'ai sorti. Bien sûr, nous, on était occupés avec l'affaire Berger et le mariage des invertis, donc en plus, on n'allait pas nous parler de ça parce que des fois que ça nous éclaire. Voilà, donc Disney fait aussi, ça fait intéressant, la promotion du cannibalisme. Il a déclaré que cette pratique est un triomphe de l'esprit humain. Et d'ailleurs, il y a des dessins animés, Alice Counts Cannibals, ce sont des vieux dessins animés, Alive Cannibals Keepers, Pirates des Caraïbes, où il présente le cannibalisme sous une forme un peu enjouée, bien sûr. Ce qu'il y a de plus triste, c'est que Walt Disney a adopté une cinquantaine d'enfants venant du tiers-monde. Certains ont disparu, même beaucoup. Ça a effectivement agrémenté les rumeurs. Voilà. Le rock est partie prenante aussi du satanisme. Des psychologues américains remarquent effectivement une explosion du suicide par la musique rock. C'est un docteur, le docteur par exemple en 1988, Mark Rosenberg de l'université de médecine de Georgetown aux États-Unis, qui écrit: On a pensé que la manière d'empêcher des suicides était de traiter la dépression. Ce n'est pas le cas avec les adolescents. Plutôt que d'être cliniquement dépressifs, ces victimes du suicide sont impulsives, elles agissent spontanément. Et vous avez même une personne de la radio aux États-Unis qui avait dit, en parlant du rock, que c'était la musique avec laquelle on assassinait les adolescents. Ça, en France, un homme qui a travaillé là-dessus, c'est le professeur Nguyen, qui a fait un remarquable travail. Je ne sais pas si c'est Nguyen qui dit que, enfin, que la musique rock même entretenait les problèmes au sein du foyer. Ou... Non, c'est un Américain qui a justement qui s'est converti en Christ, comme il dit. John Todd, voilà. John Todd disait, il y a des messages sataniques dans le rock. C'est un des plus grands producteurs. Il a dit, derrière tout ça, on retrouve les Illuminati, les Rockefeller. Du jour au lendemain. Si vous enlevez la musique rock, les foyers retrouvent leur calme. Parce qu'il y a des invocations aux démons dans les disques. Et moi, je connais des gens comme ça qui disent, ouais, j'arrête pas de me disputer avec mon mari. Je connais un cas comme ça où nous sommes des amoureux de rock, etc. Bon, peut-être que c'est pas ça. Enfin, je veux bien, vous voyez ce que je veux dire, être indulgent, mais. En tout cas, John Todd sera assassiné. Lui était un des plus grands impresarios. Il s'est converti et il dira très clairement que le rock est entre les mains des Illuminati. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi Ben Ézéchiel, le troisième membre ou représentant de l'église de Satan, qui dit très clairement que sans l'église de Satan, les groupes de rock ne se seraient jamais produits. David Bowie a déclaré, je le cite, dans Rolling Stone Magazine en 1976, le rock a toujours été la musique du diable et vous ne me ferez pas croire le contraire. C'est-à-dire que le satanisme est partout, 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 partout. Et y compris dans les vecteurs les plus accessibles pour la jeunesse. Et c'est tellement partout qu'on le retrouve même dans le rock chrétien aux États-Unis, qui avait été lancé par Amy Grant, qui chantait voilà, des louanges au Seigneur. Manque de peau, je dirais, on retrouve là aussi des messages sataniques. Hein. Le problème, c'est que le rock chrétien supplante de plus en plus le gospel dans les églises américaines. Donc on voit que rien n'est épargné. Rien n'est épargné. Je vous fais grâce de toutes les déclarations de groupes américains, etc., etc., où par exemple Bon Jovi reconnaît je tuerai ma mère pour le rock and roll et je vendrai même mon âme, ou alors Hot Chili Pepper qui dit que nous devons remercier Satan, etc., lorsqu'il reçoit un award. Et les Beatles appartiennent à ça. Alors je passe rapidement sur les Beatles, où c'est un groupe qui a complètement été créé. Et c'est Adorno, qui est un psychologue, qui dit, c'est moi qui écris les mélodies pour les Beatles parce qu'ils ne savent jouer que de la guitare. Et Adorno est un membre du Tavistock Institute. Là aussi. Quand on parle de contrôle mental, le Tavistock Institute est financé par Warburg, entre autres, et la CIA. Et c'est eux donc, qui font naître les Beatles en créant enfin, des faux rassemblements. Quand ils arrivent aux États-Unis, je crois, on voit des adolescentes complètement excitées. En fait, ce Tavistock Institute qui a organisé tout ça. D'ailleurs, il est tout à fait intéressant aussi de remarquer que sur... une des pochettes donc d'un album des Beatles, vous retrouvez le visage de Aleister Crowley. C'est notamment cet album Sgt. Pepper's Lonely Hearts. Donc, vous retrouvez le visage d'Aleister Crowley. Alors, Aleister Crowley, très vite fait, qui c'est? C'est le mage sataniste qui amène le satanisme dans le monde moderne. Et c'est lui qui exécute pour ses crimes rituels plus de 150 enfants. C'est ce qu'il écrit. Je vais vous donner la source. Ça n'a jamais été traduit en français. Il écrit ça dans une de ses parutions, dans un de ses livres, où il reconnaît effectivement donc que dans les années 20, pendant plusieurs années, il a pratiqué donc le crime rituel sur les enfants. Donc, voilà, de 1912 à 1928. C'est écrit dans Magic in Theory and Practice. Le chapitre 12 s'appelle donc, dans le chapitre 12, Of the Bloody Sacrifice and Matters Cognate. Les Beatles affichent le visage de cet homme-là. Je fais une petite parenthèse. Ron Hubbard, créateur de la Scientologie. Quand il est décédé, son fils a dit: Mon père est le successeur de Aleister Crowley. Et la Scientologie reconnue religion officielle depuis 2008 en Espagne. Tout se recoupe, tout se recoupe. Ces gens-là, tout ce qui les intéresse, c'est la culture de mort contre le Christ. Et là-dessus, c'est le combat qu'ils mènent. Le rock est soutenu aussi par les laboratoires Sandoz qui produit le LSD, où on retrouve les grands financiers derrière. Alors vous voyez, c'est un sujet sur lequel on pourrait s'éterniser longuement, en parlant des Beatles, en parlant d'autres groupes, pour démontrer le satanisme. Et la meilleure preuve, effectivement, de l'existence du satanisme dans le rock ou dans la musique, ou même dans la société, à mon sens, c'est le témoignage du plus grand rappeur américain que j'avais effectivement mentionné en début d'exposé. DMX, plus grand rappeur américain, ce n'est pas rien, où il a clairement dit, derrière tout ça, c'est les Rockefeller, ce sont les Illuminati. Il n'a pas eu peur des mots, hein. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les francs-maçons qui disent, oh, la franc-maçonnerie, non, c'est pas Satan. Lui, il a dit, je me suis converti en Christ, je lis la Bible tous les jours. Il raconte ça en prison parce qu'il a eu droit à une interview. Et il dit, vous pouvez, il va même très loin dans ses explications quand il fait ses choix à l'américaine, il dit, vous pouvez avoir aucun talent, vous faites un pacte avec Satan et vous écrivez sous sa dictée. Il raconte tout ça, tout ça, tout ça. Le problème, c'est qu'il n'est pas le seul à le dire. Il y a Ben Ezekiel, le troisième membre de l'église de Satan. Il y a John Todd qui a été assassiné, qui raconte ça. Il y en a plein d'autres. On voit véritablement ce que c'est que le rock, ce que c'est que Walt Disney, quel est le pouvoir des Illuminati. Alors quand on vous dit les Illuminati, oui, c'est un ordre dissous, ça n'existe pas. On voit très clairement que le programme qu'ils avaient institué dans le testament de Satan de Weishaupt, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire l'organisation d'une dictature par le contrôle mental pour amener les gens à l'acceptation de l'antéchrist. Et nous y sommes, puisque regardez, les gens ne croient plus en rien à l'heure actuelle, ni à l'enfer, ni en Dieu. Voilà.